Chapitre 18. Nom des morts. Alain appela à 17h pour vérifier si la somme qu'il exigeait était bien disponible, et elle s'efforça de maîtriser le dégoût que lui inspirait son avidité. Elle écrivit soigneusement l'adresse au dos d'une carte qu'elle avait prise sur le bureau de Picard à la galerie Roberts. Andrea rentra du travail 10 minutes plus tard, et Marly s'estima soulagée qu'elle ait manqué le coup de fil d'Alain. Elle regarda son ami coincer la fenêtre de la cuisine avec une vieille édition au dos bleu du deuxième volume du Shorter Oxford English Dictionary, 6e édition. Andrea avait calé sur le rebord de pierre une sorte d'étagère en contreplaqué assez large pour accueillir le petit hibachi qu'elle conservait sous l'évier. Elle disposait désormais les mini-carrés de charbon de bois avec soin sur la grille. « J'ai discuté de ton patron aujourd'hui, » dit-elle en plaçant l'hibachi sur le contreplaqué et en enflammant la pâte allume-feu avec l'allume-gaz de la cuisinière. « Notre chercheur Denis était là. Il ne comprend pas pourquoi je m'intéresse autant à Joseph Virek, mais c'est aussi un vieux cotard, et il était donc très heureux de discuter. » Marly se posta près d'elle et regarda les flammes presque invisibles lécher le charbon. « Il remet toujours les tessiers à chepoules sur le tapis, » poursuivit Andrea. « Et Hugues, un Américain qui a vécu au XXe siècle. » Il apparaît aussi dans le livre comme une sorte de proto-Virek. J'ignorais que Tessier Hachepoul avait commencé à se désagréger. Elle retourna au plan de travail et retira l'emballage de 6 crevettes géantes tigrées. Ils sont franco-australiens ? Je me souviens d'un documentaire, il me semble. Ils possédaient un des gros ensembles. Freeside, ils l'ont vendu, d'après le professeur. Apparemment, une des filles du vieux Hachepoul a réussi, on ne sait comment, à s'emparer de la direction de toute l'entreprise. Puis, son excentricité a peu à peu pris le dessus et le clan a perdu une bonne partie de sa fortune. Et cela, au cours des 7 dernières années. « Je ne vois pas le rapport avec Virek, » dit Marly en regardant Andrea embrocher chaque crevette sur une longue aiguille en bambou. « Je n'en sais pas plus que toi. Mon professeur affirme que Virek, comme les Tessier Hachepoul, sont des anachronismes fascinants et que les observer nous permet d'apprendre beaucoup sur l'évolution des entreprises. » Il en a convaincu suffisamment de nos éditeurs, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Virek ?
Que sa folie s'exprimerait autrement.
Sa folie ? En fait, il n'a pas prononcé ce mot. Mais Hugues était complètement taré, apparemment, et le vieux Hachepoul aussi. Sa fille, elle, était carrément bizarre. Il a dit que Virek serait obligé, à cause des pressions de sélection, d'accomplir une sorte de saut. C'est le mot qu'il a utilisé. Les pressions de sélection ? Oui, dit Andrea en apportant les crevettes embrochées jusqu'à l'hibachi. Il parle des entreprises comme s'il s'agissait d'animaux. Après le dîner, elles sortirent se promener. Elle tenta parfois de percevoir le système de surveillance de Virek qu'elle imaginait, mais Andrea resta elle-même chaleureuse et pleine de bon sens, et Marly apprécia de pouvoir marcher dans une ville où tout paraissait à sa place. Était-ce possible dans le monde de Virek ? Elle se rappela la poignée de laiton à la galerie du Perret qui s'était déformée de façon indescriptible sous ses doigts en l'attirant dans la copie du parc Gouel de Virek. Passait-il tout son temps là-bas ? Se demanda-t-elle, au sein du parc Gaudi, dans un après-midi perpétuel. Signor est en bonne santé, Signor aime se manifester sous diverses formes. Elle frissonna dans la douce atmosphère du soir et se rapprocha d'Andrea. Ce que les reconstructions Simsteam avaient de plus sinistre, c'est qu'elles semaient le doute sur la réalité de n'importe quel environnement, sur l'existence même des vitrines des boutiques qu'elles longeaient avec Andrea. Quelqu'un avait dit un jour que les miroirs étaient par essence malsains. Les reconstructions l'étaient encore plus à ses yeux. Andrea s'arrêta à un kiosque pour acheter ses cigarettes anglaises et le dernier L. Marly attendait sur le trottoir, au milieu des piétons, qu'il évitait machinalement. Succession de visages, étudiants, hommes d'affaires et touristes. Certains d'entre eux, estimait-elle, appartenaient à la machine de Virek reliée à Paco. Paco, avec ses yeux marrons, sa décontraction, son sérieux, ses muscles apparents sous sa chemise en coton. Paco qui avait travaillé pour Signor toute sa vie.
Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi cet air ahuri ? On dirait que tu viens de gober quelque chose.
Andrea retira le cellophane de son paquet de Silkut.
Ça va,
dit Marly avant de frissonner.
Mais je viens de m'apercevoir que j'ai presque failli. Et sur le chemin du retour, malgré la conversation et la chaleur d'Andrea, les vitrines s'étaient transformées en boîte, en interprétation, comme les œuvres de Joseph Cornell ou du mystérieux créateur de boîtes que Virek recherchait. Les livres, les fourrures et les cotons italiens disposés de façon à évoquer des géométries d'envie imprécise. Elle se réveilla, de nouveau le visage enfoncé dans le canapé d'Andrea, la couette rouge autour des épaules, dans l'odeur de café, tandis que son ami fredonnait une chanson pop tokyoïte dans l'autre pièce en s'habillant. Un matin gris, sous la pluie de Paris. « Non, » dit-elle à Paco, « j'irai en personne, je préfère. »« C'est beaucoup d'argent. » Il baissa les yeux vers le sac italien posé sur la table du café. « C'est dangereux, vous comprenez ?»« Personne ne sait que je l'aurai, n'est-ce pas ?»« Rien qu'Alain. Alain et vos amis. » »« Et je n'ai pas dit que j'irai seul, mais que je n'ai pas envie de compagnie. » »« Qu'y a-t-il ?» Des rides sincères au coin de la bouche. « Un problème ?»« J'ai simplement dit que je préférais rester seul. Vous et les autres, je ne sais pas qui, vous pouvez me suivre. » Et me surveiller, si vous voulez. Si vous me perdez, ce qui me paraît peu probable, il vous reste l'adresse, j'imagine. Exact, dit-il. Mais de là à transporter plusieurs millions de nouveaux yens seuls dans Paris... Il haussa les épaules. Et si je les égarais? Seigneur se rendrait compte de la perte? Ou enverrait-il un autre sac rempli de 4 millions? Elle s'empara de la sangle et se leva. Il y aurait sans doute un autre sac, même si... Rassembler autant de liquide nous demande quelques efforts. Et non, Seigneur ne se rendrait pas compte de la perte. Pas de la façon dont vous l'entendez, mais j'en subirais les conséquences, même s'il s'agissait d'une somme plus petite. Vous allez vite découvrir que les ultra-riches font tous très attention à leur argent. Quoi qu'il en soit, j'irai moi-même. Pas seul, mais laissez-moi un peu respirer. Faire fonctionner votre intuition? Oui. S'il la suivait, ce dont elle était convaincue, il restait aussi invisible qu'à l'accoutumée. Il était d'ailleurs probable qu'il ne s'occupait pas d'Alain. Ils devaient déjà concentrer leur surveillance sur l'adresse qu'il lui avait donnée ce matin-là, qu'il s'y trouve ou non. Cette journée lui avait apporté une nouvelle vigueur. Elle avait tenu tête à Paco, peut-être parce qu'elle avait soudain soupçonné, la veille au soir, que Paco pouvait avoir été envoyé ici en partie pour elle. Avec son humour, sa virilité et son attachante ignorance de tout ce qui touchait à l'art. Elle se souvenait de Virek, lui confiant qu'ils en savaient plus sur sa vie qu'elle-même. Il pouvait donc facilement remplir les derniers vides de la grille qu'était Marly Krouchkova. Paco Estevez. Un parfait inconnu, trop parfait. Elle se sourit dans le mur de miroir bleu, tandis que l'ascenseur l'emportait vers le métro, ravie de la façon dont ses cheveux sombres étaient coupés et de la monture en titane, austère et élégante, des lunettes noires Porsche achetées le matin même. « De belles lèvres, se dit-elle. Des lèvres vraiment pas mal. Et un garçon mince en chemise blanche et blouson de cuir sombre, un immense porte-document noir sous le bras, lui sourit du sommet de l'escalator. « Je suis à Paris, se dit-elle. Pour la première fois depuis très longtemps, ce simple fait la fit sourire. Et aujourd'hui, je vais apporter à mon ex, ce connard écœurant, 4 millions de nouveaux yens. En échange, il me donnera quelque chose. Un nom ou une adresse, peut-être un numéro de téléphone. Elle acheta un ticket de première classe. La rame serait moins bondée. Et elle pourrait passer le temps en essayant de deviner lequel des autres passagers travaillait pour Virek. L'adresse qu'Alain lui avait fournie, dans une banlieue nord sinistre, correspondait à une des 20 tours de béton qui s'élevaient sur une plaine du même matériau. Plan immobilier datant du milieu du XXe siècle. La pluie tombait drue désormais, mais elle avait l'étrange impression d'être de connivence avec elle. L'averse apportait un côté complotiste à la journée et perlait sur le joli sac en caoutchouc qui contenait la fortune d'Alain. Comme il était bizarre de marcher dans cet affreux décor, des millions sous le bras, pour aller récompenser son ancien petit ami infidèle avec ses liasses de nouveaux yens. Lorsqu'elle appuya sur l'interphone correspondant au numéro de l'appartement, elle n'obtint pas de réponse. Derrière un panneau de verre sale, un hall sombre et vide. Le genre d'endroit où les lumières s'allumaient dès qu'on entrait. Elle s'éteignait de nouveau automatiquement avant l'arrivée de l'ascenseur. Et l'on était obligé d'attendre là, dans l'air confiné et l'odeur de désinfectant. Elle sonna. Encore. Alain ? Pas de réponse. Elle poussa la porte, qui n'était pas verrouillée. Il n'y avait personne dans le hall. L'œil mort d'une caméra vidéo abandonnée l'observait à travers une couche de poussière. La lumière aqueuse de l'après-midi entrait depuis la plaine de béton dans son dos. Les talons claquant sur du carrelage marron, elle se rendit jusqu'aux ascenseurs et appuya sur le bouton 22. Un bruit creux retentit. Puis un grincement métallique et une des cabines entama sa descente. Le voyant en plastique au-dessus des portes resta éteint. L'ascenseur arriva dans un soupir et un gémissement aigu et décrescendo. « Tu es vraiment tombé bien bas, Alain. C'est carrément un taudis ici. » Lorsque les portes s'ouvrirent, elle tâtonna sous le bagage italien à la recherche du rabat de son sac à main bruxellois. Elle trouva la petite torche électrique verte qu'elle avait toujours sur elle depuis sa première balade à Paris, avec la tête de lion du logo Pile Wonder inscrite en relief, et la sortit. On pouvait tomber sur n'importe quoi dans les ascenseurs parisiens. Les bras d'un agresseur, une merde de chien encore fumante. Et le mince rayon de lumière éclaira des câbles argentés, huilés et étincelants, qui se balançaient doucement dans la cage d'ascenseur vide. Le bout de sa botte droite dépassant déjà de quelques centimètres du rebord de métal usé du carreau sous ses pieds. Terrorisée, elle baissa par réflexe la torche sur le toit poussiéreux et encombré de la cabine, deux étages en dessous. Elle vit énormément de détails durant les quelques secondes où sa lumière tremblota sur l'ascenseur. Elle pensa à un minuscule sous-marin plongeant le long de la paroi d'une crevasse et dont le faible éclairage passait sur du limon épargné depuis des siècles. Le tout tapis de vieille suie poussiéreuse, un objet gris et sec qui se révéla être un préservatif usagé, des morceaux de papier alu froissés, comme le reflet d'yeux brillants, le mince tube gris et le piston blanc d'une seringue d'insuline. Elle se retint si fort au rebord de la porte qu'elle en eut mal aux articulations. Très lentement, elle fit passer son poids vers l'arrière à l'écart du trou. Un pas de plus et elle éteignit la lumière. « Oh putain !» dit-elle. « Merde !» Elle trouva la porte de l'escalier, ralluma la torche et entama la montée. Au bout de 8 étages, le choc passé, elle se mit à trembler et les larmes dévastèrent son maquillage. Elle frappa de nouveau à la porte, qui était en stratifié, épouvantable imitation de bois de rose, le grain lithographié à peine visible à la lumière de l'unique bande fluorescente du long couloir. Pensant. « Alain ? Alain ?» L'œilleton myope du battant regardait à travers elle, vide et nue. Une horrible puanteur régnait dans le couloir, vieilles odeurs de cuisine retenues dans la moquette synthétique. Elle essaya la poignée, qui tourna, le laiton bon marché graisseux et froid. Et le sac devint soudain lourd, la sangle lui entamant l'épaule. Le battant s'ouvrit facilement. Une petite bande de moquette orange, parsemée de rectangles irréguliers rose saumon et imprégnée de décennies de saleté apportées par des milliers de locataires et leurs visiteurs, pour former un sentier bien défini. Alain ? L'odeur des cigarettes brunes françaises, presque réconfortante. Et elle le trouva, là, dans cette même lumière aqueuse argentée, les autres tours anonymes par-delà le rectangle de la fenêtre, devant le ciel pâle et pluvieux, recroquevillé par terre, comme un enfant, sur l'affreuse moquette orange. La colonne vertébrale formant un point d'interrogation sous le dos tendu de sa veste en velours vert bouteille, sa main gauche posée sur l'oreille, les doigts blancs, une légère teinte bleuâtre à la base des ongles. Elle s'agenouilla, lui toucha le cou. Et comprit. Derrière la fenêtre, la pluie tombait à jamais. Elle prit sa tête dans ses mains, les jambes écartées, et le tint, se balança, le berça, la mélopée funèbre, idiote et triste d'un animal emplissant le rectangle nu de la pièce. Au bout d'un moment, elle prit conscience de l'objet aiguisé sous sa paume, l'extrémité inoxydable d'une longueur de corde très fine et très rigide, qui dépassait de son oreille, et passait entre ses doigts froids. Affreux. Affreux, ce n'était pas une façon de mourir. La colère la poussa à se relever, les mains comme des griffes. Elle examina la salle silencieuse où il avait trouvé la mort. Rien n'évoquait sa présence ici, à part son attaché-case abîmé. En l'ouvrant, elle découvrit deux carnets à spirale aux pages neuves et propres, un roman à la mode mais jamais lu, une boîte d'allumettes et un paquet bleu à moitié vide de Gauloise. L'agenda en cuir de chez Browns avait disparu. Elle palpa sa veste, glissa les doigts dans ses poches, mais ne le trouva pas. « Non, se dit-elle, tu ne l'aurais pas écrit là, pas vrai ?»«
Mais tu ne te rappelais jamais les numéros et les adresses. »
Elle regarda de nouveau dans la pièce, envahie par un calme étrange. « Tu notais tout, mais tu étais discret et tu n'avais pas confiance en mon petit carnet de chez Brown. Non. » Tu rencontrais une fille dans un café et écrivais son numéro sur une boîte d'allumettes ou au revers d'un morceau de papier. Puis tu l'oubliais. Et je le retrouvais des semaines plus tard en repassant tes affaires. Elle se rendit dans la petite chambre meublée d'un siège pliant rouge vif et d'un bout de mousse jaune bon marché qui faisait office de lit. Un papillon marron de sang menstruel tachait le matelas. Elle le souleva, mais ne trouva rien. « Tu devais avoir peur !» dit-elle d'une voix qu'une colère qu'elle n'essaya pas de comprendre faisait trembler, les mains froides, plus froides que celles d'Alain lorsqu'elle les passa sur le papier peint rouge aux bandes dorées à la recherche d'un mauvais raccord, d'une cachette. Espèce de gros con, gros connard assassiné. Rien. Elle retourna dans le salon et, bizarrement, s'étonna qu'il n'ait pas bougé. Elle s'attendait à le voir se relever, la saluer en agitant plusieurs centimètres de fil de magicien. Elle lui retira ses chaussures. Les semelles et les talons étaient très usés. Elle regarda à l'intérieur, tâta la doublure. Rien. Ne me fais pas ça. Et elle repartit dans la chambre. Le placard le plus proche. Elle écarta une rangée de cintres blancs bon marché, un linceul de plastique de pressing. Elle tira le matelas taché jusque là et monta dessus. Les talons s'enfonçant dans la mousse pour glisser la main tout au fond de l'étagère où elle trouva, dans le coin opposé, un petit bout de papier rigide, rectangulaire et bleu. En l'ouvrant, elle remarqua que ses ongles soigneusement vernis étaient ébréchés, puis elle découvrit le numéro qu'il y avait inscrit au feutre vert. C'était un paquet de Gauloises vides. On frappa à la porte. Puis, la voix de Paco. « Marly ? Eh oh ! » Que s'est-il passé ? Elle coinça le numéro dans la ceinture de son jean et se tourna vers ses yeux calmes et sérieux. « C'est Alain, » dit-elle.